Bonjour à tous et à toutes sur l'antenne de CFM Cahors. On se retrouve à nouveau dans votre émission mensuelle Pense Bête. Ici, on vous parle de chiens, comportement, santé, lois et bonnes actions. On vous dit tout en compagnie des bénévoles du Refuge Canin Lotois et de professionnels du monde animal. Aujourd'hui dans Pense Bête, on vous présente le pôle événementiel du refuge. On vous parle aussi de l'évolution de la protection animale en France au cours du temps. Côté culture générale et comportement, on se penche sur le sujet des races difficiles et du langage du chien. Question de santé, on a échangé avec un vétérinaire sur les tiques. Et ensuite, deux lycéennes sont avec nous sur le plateau. Elles nous présenteront leur projet en partenariat avec le refuge canin. Et à la fin, l'annonce des événements à venir au refuge, comme d'habitude. Et pour réaliser tout ça, nous sommes en compagnie de Carole, présidente du RCL.
Bonjour.
De Roselyne, bénévole au pôle événementiel et membre du CA.
Bonjour.
De Claire, soigneuse au refuge.
Bonjour.
Et de Noémie et Lucie, lycéennes à Clément Marot.
Bonjour.
Et enfin, moi-même, Andy Champon, à la présentation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle que le Refuge Canin Lotois est une association loi 1901 basée au Monta. Le refuge s'organise en plusieurs pôles, dont le pôle événementiel. Roselyne, vous êtes ici pour nous présenter ce pôle du refuge.
Ouais.
Mais juste avant, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous, brièvement?
Alors, je suis Roselyne, bénévole au refuge depuis 2 ans et demi. Je suis membre du CA et je suis responsable du pôle événement.
Et donc, le pôle événement, qu'est-ce que c'est?
Alors, on a énormément de chance au refuge car on a beaucoup de gens qui s'investissent pour la cause animale et qui nous aident sur différents événements que nous organisons pour accroître la sensibilisation même à la cause animale et mieux faire connaître le travail du refuge. Nous avons des bénévoles réguliers, d'autres qui sont ponctuels, des promeneurs, ceux qui aident sur différents événements, des entreprises, des commerces, des magasins en partenariat. Donc, on a vraiment beaucoup de chance.
Et donc, être bénévole pour aider aux événements, ça consiste en quoi?
Alors, on fait plusieurs sortes d'événements, le plus gros étant le marché de Noël et le loto en mi-décembre, une première en 2024, qui nous a rapporté beaucoup de sous pour nos loulous. Donc, c'était top, donc on remet ça. Je vous en dirai un petit peu plus vers la fin. On a besoin du temps, de l'énergie, de la motivation et du sourire de bénévoles, parce que bien que j'ai dit qu'on avait de la chance, il nous faut toujours plus de bénévoles. Tenir un stand d'information pour augmenter la visibilité du refuge à tout public, motiver d'autres personnes, devenir bénévole en partageant notre engagement pour la cause animale et en particulier envers nos loulous du refuge. Aider à la préparation en amont, durant et ou après les événements. Besoin de vos talents culinaires pour certains événements, confection de gâteaux, sucrés, cakes salés pour les vendre. Besoin de vous pour vendre des boissons, des snacks, des gâteaux et durant certains événements. Et tout ça pour faire des sous pour les chiens, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal.
Donc les objectifs de ces événements, de ces manifestations du refuge, c'est uniquement récolter des fonds? Ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière?
On veut augmenter la visibilité du refuge et on veut faire le plus de sous possible pour nos loulous, pour qu'ils soient choyés au refuge et qu'on leur trouve vite une famille.
Donc merci Roselyne, on reviendra sur les événements à venir à la fin de notre émission.
Ouais.
C'est l'heure maintenant de notre rubrique de droit avec Carole. Et cette fois-ci, Carole, vous abordez les changements dans la protection animale. Alors, quels sont ces changements dont vous vouliez parler à nos auditeurs?
Eh bien, la protection animale, elle change énormément en France actuellement. On parle beaucoup plus d'émotion, de comportement, de bien-être. Et j'ai envie de dire qu'on voit énormément se développer des concepts comme les familles d'accueil, hein, que nous avons nous également au refuge pour accueillir certains de nos chiens. La médiation animale, qu'on retrouve de plus en plus. Ou encore, ce travail que l'on fait et que les soigneurs et que les comportementalistes font en douceur et qui sont surtout basés sur la compréhension du chien. Donc, j'ai envie de dire qu'on va quitter l'autorité, hein, qu'on a connue chez nos gros-parents, chez nos arrière-grands-parents, surtout à la campagne, pour aller plus vers une idée de coopération avec l'animal.
Ouais.
Et franchement, c'est chouette et il nous le rend bien.
Ouais, super.
Donc c'est une évolution de la relation entre l'homme et l'animal.
Ah oui, tout à fait. Hein. On va passer d'un animal qu'on dresse à un animal qu'on comprend. Et ça, ça va tout changer déjà et pour le propriétaire et pour l'animal, parce que ça va éviter énormément de conflits, de retours de chiens, ça c'est bien évident, de comportements qui vont être dérangeants. On parle beaucoup d'éducation positive aujourd'hui, mais ça sert aussi pour les chiens, pour nos chiens. Et cette éducation positive, c'est la lecture des signaux canins. Et ça, je trouve que ça devient vraiment essentiel.
C'est super important.
Donc on parle des chiens de suite. Est-ce que il y a des chiens qui sont partis du refuge depuis la dernière fois ?
Ah mais bien sûr, il y a des chiens qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Ouf ! On a des photos régulièrement de ces toutous. Et puis ils ont la belle vie, hein. Ils passent du box au canapé ou au lit. Bon, sans aller jusqu'à là, je trouve que c'est quand même super cool leur histoire, hein.
Ouais.
Et donc, on revient sur ces changements de la relation entre l'homme et l'animal. Ça se traduit par des lois ?
Oui, alors effectivement, on a eu un grand changement en matière, je dirais, à travers le temps. Notre législation en faveur des animaux, elle a profondément évolué. Mince. Elle a profondément évolué, excusez-moi, avec la prise de conscience des devoirs de l'homme à leur rencontre afin de leur éviter toute souffrance. Et c'est bien le but. Hein. Et d'ailleurs, la Fondation 30 millions d'amis, hein, qui agit pour nous, mais qui agit aussi pour que les dispositions protectrices des animaux soient appliquées, et qui contribue à l'élaboration d'un nouvel arsenal législatif qui soit apte à mieux gérer, à protéger et à prendre en considération surtout leurs droits et leur bien-être. Et ça, c'est une belle avancée.
Ouais, ouais.
Est-ce que vous avez des lois clés qui illustrent cette évolution ?
Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que j'ai pas... Voilà, il y en a énormément, mais je vais vous citer les principales. En fait, la première, en 1850, en France, la protection animale, elle s'est concrétisée en premier lieu par une protection pénale. Ça, c'est important. Donc, la première loi pénale date du 2 juillet 1850 et elle s'appelle la loi Gramont. Le général Jacques Delmas de Gramont, c'était un homme qui était sensibilisé au sort des chevaux de guerre et des animaux maltraités dans les rues. Et en tant que député, il a fait voter par l'Assemblée nationale législative une loi selon laquelle seront punis d'une amende de 5 à 15 francs. Eh oui, nous étions encore en France. Ça fait bizarre d'entendre ça aujourd'hui. Ça fait tellement peu. Et pourront l'être d'un à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Donc ça, c'était quand même un général ambitieux. Et c'était déjà en 1850, vous voyez, un pas en avant. Après, je peux vous parler d'une seconde loi qui est celle du 6 janvier 1999. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, qui est relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, qui prévoit des dispositions relatives aux animaux dangereux, mais également davantage de clémence pour les animaux errants. Alors, depuis la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures, l'animal est enfin considéré dans le Code civil comme un être vivant, doué de sensibilité. Et ça, c'est vraiment une très belle progression.
Ouais, bah il est temps. Hein.
Merci Carole pour toutes ces explications. C'est maintenant l'heure d'une petite pause musicale et puisque les fêtes arrivent à grands pas, on vous laisse en compagnie de Maria Carey, All I Want for Christmas Is You.
I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Et c'était All I Want for Christmas Is You de Maria Carré. Vous êtes de retour dans l'émission Pense Bête sur CFM Cahors. Pour cette émission qui a du chien, nous sommes en compagnie du refuge canin Lotois. Et en l'occurrence, nous continuons notre émission avec Claire, soigneuse au refuge. Claire, vous allez nous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mais avant cela, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ?
Oui, alors sans problème. Donc moi, c'est bien Claire, hein, là, pour l'instant, on a de bonnes infos. Je suis soigneuse au refuge du canin lotois, depuis actuellement bientôt 2 années. Je peux vous laisser quelques mots sur ma carrière professionnelle. Donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, avec 2 années d'apprentissage dans un élevage canin dit intensif. Donc, avec des bonnes comme des mauvaises expériences, certaines formatrices, d'autres beaucoup moins, avec des horaires sans horaires, on va dire, hein, sur des journées dites à rallonge. Donc ça, c'est le métier de soigneur, hein, faut pas se leurrer. J'ai ensuite travaillé au sein du refuge de 2011 à 2013, pour ensuite continuer ma carrière au sein de la fourrière animale, qui est en lien avec le refuge du Montard, pendant 5 ans à peu près. 5 années de pratique, de compréhension du langage du chien, qui ont été très formatrices. Et en 2017, j'ai préféré m'envoler vers d'autres horizons, donc toujours dans la formation de soigneur animalier, mais là en établissement zoologique. Je n'y suis pas restée très longtemps. Mes convictions et mes valeurs n'étaient pas vraiment en adéquation avec ce que j'étais en train de faire. Et voilà. Et le chien, de toute façon, l'univers autour du chien me manquait beaucoup trop. Donc je suis revenue travailler au refuge sur une opportunité de remplacement, encore une fois, sur 6 mois. Avec toujours la même et ma plus grande ambition concernant les missions à accomplir. Et en juillet 2024, enfin, jusqu'à aujourd'hui, encore une belle opportunité que je saisis. Donc me voici à nouveau en tant que soigneuse au sein du refuge canin lotois.
C'est un parcours assez riche. Claire, aujourd'hui, vous venez pour nous parler de races à problème. Quelles sont-elles ?
Alors, les races dites à problème. Alors, on va parler, oui, d'un sujet qui pourrait fâcher, hein, plus d'un. Les chiens difficiles ou humains en incapacité plutôt de pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, ces chiens à problème pour le moment, ont un engouement actuel vers les chiens dits de travail. L'humain est souvent attiré par ce type de chien et nous verrons par la suite que ce n'est pas toujours la meilleure des idées.
Pourquoi est-ce qu'on les considère à problème ?
Alors, on les considère à problème parce qu'ils ont des besoins qui sont souvent méconnus de la part de l'humain qui s'y intéresse. Alors, généralement, l'humain, il est plutôt attiré vers le côté atypique ou physique du chien. Alors, des chiens dits à tendance, alors qu'on va pas mal publier sur les réseaux comme des chiens parfaits, hein, sans parler du réel besoin du chien. Donc, comme le border collie, on va parler du berger australien, on va parler... encore une fois, beaucoup plus sérieusement aussi du berger belge malinois. C'est des chiens qui ont des besoins réels, qui ont été formés génétiquement aussi pour répondre à des besoins utiles de la part de l'humain. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des personnes qui acquièrent ce genre de chien n'ont pas un type de vie qui est en adéquation avec le potentiel du chien choisi, quoi.
Mais donc, on se demande même s'il ne faudrait pas créer un refuge ou une structure pour former les personnes aux besoins de ces chiens.
Complètement, on aimerait bien. Ouais. Hein, on leur ferait des petits studios bien confortables.
Non, une idée peut-être.
Ouais, je rigole, ouais. Mais oui, sincèrement, oui, là, c'est ce qui manque le plus, en fait. C'est la formation du maître ou du futur acquéreur. La sensibilisation. Après, il faut que l'humain, les personnes soient aussi... et l'envie et la volonté, justement, de se former à tout ça. Et il faudrait que, oui, effectivement, ces races soient un peu plus prises au sérieux et pas balancées à donner ou à vendre sur le bon coin, tout simplement, en ignorant toutes les problématiques qui peuvent s'y rattacher.
Donc, vous avez cité 3 races. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de pourquoi est-ce qu'elles sont à problème ?
Sans souci. Alors, par exemple, le malinois. Malinois, c'est un chien de travail à l'origine, hein, qui a été formé pour les armées, que ce soit au niveau du physique, au niveau du mental, au niveau des capacités sensorielles. Donc moi, je l'appelle le soldat au grand cœur. Donc c'est un amour à toute épreuve, mais qui demande régularité dans ses activités proposées de la part de l'humain, une certaine cohérence. Si le Malinois n'est pas entouré d'un humain de vie qui sache l'orienter dans ses choix, attention les dégâts. Dynamisme, douceur, un esprit posé pour un chien bâti pour ne pas forcément l'être. Voilà pour le Malinois.
Il y a le Border Collie aussi que vous avez cité.
Tout à fait. Chien de travail avant tout. Donc ligné sur des bovins et des ovins, en travail, en regroupement, etc. Donc petit et gros gabarit, qui souvent en plus naissent dans des fermes sans sociabilisation, vont avoir besoin dans leur vie d'activités basées sur des activités olfactives. Ils aiment l'ordre, ils aiment mener. Donc ce sont des chiens dits de troupeau, ça tout le monde le sait. De toutes les couleurs, avec ses yeux parfois bleus, l'humain le désire contre toute attente, mais le border collie a des attentes, lui, qui ne seront peut-être pas au goût de l'humain, qui, lui, le choisit malgré tout. Donc, emmène-moi, fais-moi travailler, aussi bien mentalement que physiquement, je suis prêt, et toi, là est la question.
Et la dernière race que vous aviez citée ?
Ouais, le berger australien.
Oui.
Ah, le berger australien, tiens, tiens. Pas mal de similitudes avec le border collie quant à son utilité initiale. Chien de travail, encore une fois, chien de troupeau. Ah bon, combien d'humains ne sont pas au courant ? Il est tendance, il a des couleurs incroyables, des yeux resplendissants et un pelage à en faire jalouser plus d'un. Mais voilà, il est souvent là pour combler une famille avec des enfants dans une maison, avec un grand jardin qui apparemment suffira à ce magnifique chien. Sauf que la réalité en est tout autre. Un berger australien qui tourne en rond finira, tout comme son ami le border collie et le malinois, par développer des tocs, de la poursuite, des séquences de prédation, des fugues, et finira, devinez où, chez nous.
Ouais. Évidemment.
Voilà.
Donc, pour résumer cette séquence, en fait, ces chiens sont à problème parce qu'on ne les stimule pas assez.
Oui, et puis on a un mode de vie, peut-être pour la plupart des gens, alors on ne peut pas leur reprocher, qui n'est pas forcément adapté finalement à ces chiens-là, hein, dans tous les cas. Je pense qu'il faut que l'humain se remette en question déjà avant d'acquérir l'animal et qu'il se renseigne aussi sur les lignées. Il y a beaucoup de responsabilités aussi vis-à-vis de certains éleveurs aussi qui finalement cèdent des chiens sur des lignées de travail, mais ça c'est encore autre chose, mais je pense qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs responsables de ce genre de, malheureusement, de conséquences.
Donc, je rebondis sur votre intervention, Claire. Ces chiens que vous avez cités, ils se retrouvent de plus en plus aussi dans des situations de morsure, du fait de leur manque de stimulation. Et c'est ce que révèle une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui avait été publiée en 2021 déjà. Et ce que cette étude révèle, c'est que les petits chiens aussi peuvent révéler ce type de comportement. Je me suis penchée sur le cas du cocker, qui revient avec 2% de morsures en France. Alors, ça reste peu, mais ça fait quand même partie du top 10 des chiens qui mordent. Pour un chien de canapé, c'est assez particulier. Et donc, pour ce cas, je suis rentrée en contact avec Christelle Frion-Cans, qui est une éleveuse de cocker à Bringues, dans le Lot.
Alors, je m'appelle Christelle, je suis éleveuse de cocker anglais dans le Lot, à Bringues.
Le cocker, c'est quoi comme type de chien ?
À la base, c'est un chien de chasse qui est devenu un très bon chien de compagnie, qui fait de lui un petit compagnon idéal pour les gens qui sont à la fois sédentaires et à la fois qui aiment les balades en forêt, en montagne, à la plage, etc.
C'est un chien qui a des besoins spécifiques du fait de son origine dans le monde de la chasse.
Il a effectivement besoin de se dépenser, mais il est très adaptable aussi. C'est un très bon chien de canapé, comme ça peut être un très bon chien de balade.
Pour un cocker qui ne se dépenserait pas assez, quel type de comportement est-ce que ça pourrait engendrer ?
Alors un cocker qui ne se dépenserait pas assez pourrait devenir anxieux et potentiellement agressif.
Est-ce que ça se ressent d'une manière spécifique ?
Ça peut être effectivement de la protection de ressources, ça peut être de l'animosité envers d'autres animaux, envers des êtres humains si on va plus loin.
Pour les êtres humains, c'est dans des cas plus rares.
Ça reste des cas plus rares. Oui, c'est pas le plus fréquent effectivement. Le cocker qui est anxieux peut potentiellement se retourner vers un humain qui va être désagréable avec lui. pas quelqu'un qui va venir gentiment, qui va, sauf si le chien a peur du maître, mais ça c'est comme tous les chiens, enfin du maître, a peur de l'humain, mais ça c'est pour tous les chiens.
J'ajoute que selon une publication de 2009 de Hamad et Hall, le cocker aurait une prédisposition génétique à l'agressivité, même si les cas de morsure restent rares, c'est quand même que 2%. Et donc je reviens sur l'étude de l'ANSES que j'ai évoquée plus tôt. Cette étude, elle se penche aussi sur les chiens catégorisés qui sont susceptibles de mordre, évidemment. C'est pour ça qu'ils ont été catégorisés. Donc ces chiens à risque, c'est un sujet dont nous parle Carole.
Alors oui, on va parler plus aussi des chiens à la mode, hein, pas seulement des chiens catégorisés. Parmi les chiens que je vais vous citer, ils ne sont pas tous catégorisés. Mais ces chiens ont mauvaise réputation, mais ce sont souvent des crèmes, et on le voit, franchement, on le voit au refuge tous les jours. Et je pense aux Staffy, aux Amstaff, aux Bull Terrier, aux Pitbull, bref, aux chiens dits costauds. Hein, là, on ne parle pas forcément de catégorisés, mais costauds. Ils ont fière allure, quoi. Et on les catégorise, on les juge sur leur apparence, mais si vous saviez, vous qui nous écoutez aujourd'hui, combien la réalité peut être différente. Et on va parler du Staff, par exemple, qui est un chien qui est excessivement proche de l'humain, proche de sa famille. Il va aimer le contact physique, il va même coller à son humain tout le temps. Il est très sensible. Et les Staffy ou Amstaff, ce sont des chiens qui sont très doux avec les enfants dès lors qu'ils sont bien socialisés. Hein. Leur problème principal, ce n'est pas de l'agressivité, c'est la solitude. Et un Staff ou un Amstaff qui est laissé seul de longues heures, il va développer de l'anxiété, voire des destructions. Mais ce n'est pas parce qu'il est dangereux, c'est juste parce qu'il est malheureux.
On sent une présidente amoureuse des chiens quand même.
On sent vraiment que vous êtes amoureuse des chiens.
Oui, oui, ben c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Et puis au refuge, c'était important pour moi. C'est presque une mission de vie.
Il est maintenant temps d'une autre pause musicale avec Running Up That Hill, une reprise du titre faite par Placebo.
You
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Nous sommes de retour dans Pense Bête, votre rendez-vous animalier mensuel sur CFM Radio dans le Lot. Et donc on retrouve Carole qui nous parlait des chiens catégorisés et des chiens à la mode qui étaient un peu incompris.
Oui, alors il y aurait encore beaucoup, beaucoup d'autres chiens que je voudrais développer, mais on n'a pas le temps, hein, on y passerait beaucoup trop de temps, mais il y a beaucoup de clowns au cœur fragile, croyez-le bien. Et rappelons que la catégorisation française ne dit absolument rien du caractère du chien, parce qu'un staff équilibré, il est mille fois moins dangereux qu'un petit chien qui va être terrorisé et qui n'a jamais été socialisé. Ça, c'est important. Et heureusement, la loi vise à responsabiliser les propriétaires. Alors, avec une assurance, bien évidemment, hein, certificat pour certains chiens dits catégorisés, une muselière dans l'espace public. Et surtout, ce qui est très important, enfin, nous, on le fait, en tout cas, au refuge, avant de sortir ce type de chien, c'est une évaluation comportementale.
Ça stigmatise un petit peu quand même, je trouve, ces races de chiens.
Oui, complètement. Et encore une fois, ça dépend de l'humain. Hein.
Tout à fait.
on revient, en fait...
L'humain influence beaucoup. Oui.
Complètement,
ouais.
Et je disais un staff.
C'est son compagnon de vie, donc ouais.
Et un staff bien sociabilisé, eh bien, c'est souvent, et Claire, tu ne me diras pas le contraire, un chien tout à fait exceptionnel.
Complètement. Étant amoureuse de ces chiens-là, oui. Je le confirme.
Merci Carole. Et donc on parle de ces chiens. Alors ils ont une muselière, c'est pour ne pas mordre. Mais justement pour éviter les morsures, il y a aussi le langage du chien qui permet de se renseigner sur l'état d'esprit du chien au moment où on le croise. Et donc Claire, est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce langage du chien ?
Oui, tout à fait. Donc c'est la base, hein, si on veut rentrer en communication avec un chien et éviter un accident, par exemple. Alors les chiens, tout comme avec nous, hein, ils fonctionnent de la même manière entre eux, donc ils communiquent. Ils ont un seul et même langage, donc ils ne sont pas bilingues et moi non plus, donc ça tombe bien. Ils fonctionnent avec ce qu'on appelle donc les signaux d'apaisement. Donc qu'est-ce que c'est ? À savoir que le chien, il a une volonté première, contrairement à certains humains, éviter tout conflit. C'est une vraie chorégraphie qui se met en route, c'est oui, hein.
On parle de ça. C'est tellement vrai, ça.
Mais c'est complètement vrai. Ne croyons pas qu'un chien aime la bagarre, c'est pas vrai. Il se met souvent dans des situations qui l'inconfortent. Donc c'est une vraie chorégraphie qui se met en route. On a du remuage de queue, du bâillement, du plissement des yeux, de la tête tournée à l'opposé du regard de l'autre, fixation du corps, ancrage et j'en passe. Et non, le chien qui remue la queue n'est pas qu'un chien détendu. Il cherche souvent, par cette action, du coup, à s'auto-apaiser. Et aussi à apaiser l'autre, que ce soit un humain ou un chien, ça dépend avec qui il interagit. Le chien qui se lèche les babines n'est pas forcément un chien gourmand. C'est aussi un chien qui essaye de s'auto-apaiser. Donc non, petit chien de petite taille, quitte à en décevoir plus d'un ou plus d'une, qui se retrouve dans les bras de son maître aimant, serré fort contre son cœur, qui remue la queue, nous signale une position d'inconfort, sachons-le, pauvrette. Donc une fois, deux fois, trois fois, et bim, la morsure. Incompréhension de l'humain qui le stigmatise de chien dit méchant, alors qu'il a tout fait pour vous communiquer son mal-être. Il se sent en danger, il réagit, qui ne le ferait pas. Ensuite, on peut parler, donc, par exemple, du bâillement, qui est au sein d'une seule et même interaction. Il va vous signaler son inconfort par le bâillement, par le plissement des yeux, comme ce dont je vous avais parlé. Par le haussement des babines au-dessus des crocs, généralement, là, on arrive à l'alerte. Le grognement, c'est une alerte. Également, d'où la nécessité fondamentale à tous les futurs adoptants, acquéreurs actuels de mini ou chiens XXL, de vous informer auprès de vrais professionnels du langage canin, comme des éducateurs canins comportementalistes certifiés. Point d'exclamation.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des chiens qui n'ont aucune idée. Moi, j'étais la première, je ne connaissais pas les...
Mais oui, je pense qu'on a tous commencé de cette manière-là.
Une fois qu'on connaît,
c'est beaucoup plus simple. Ouais.
Après, tout le monde est mieux. Oui,
tout à fait. C'est
oui, exactement alors, ça. Tu soulignais le point d'exclamation après oui. certifié. Est-ce qu'il y a beaucoup de comportementalistes ou d'éducateurs qui, finalement, ne sont pas vraiment certifiés?
Alors, c'est un peu malheureux, mais il y a énormément, on va dire, de personnes qui se disent éducateurs. Donc, il y a des personnes qui sont réellement formées et d'autres beaucoup moins. Mais n'importe qui, finalement, qui aurait passé la CACED, hein, donc c'est juste une habilitation pour détenir des animaux domestiques au sein d'un élevage, etc. Cette CACED, en fait, vous permet de vous proclamer éducateur et même comportementaliste. Donc le mieux est de se renseigner réellement sur la certification de la personne et de lui demander ses diplômes, ses lieux de formation, etc. Et pourquoi pas aller interroger des clients de la personne, savoir ce qui en était conclu.
On va maintenant passer à la rubrique santé. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui ont cette accréditation au refuge ?
Alors oui, on a plusieurs professionnels qui interviennent, donc bénévolement, souvent. Donc ça, c'est vraiment un tremplin pour le refuge et on a vraiment beaucoup de chance. Moi, je peux juste vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé en 2011 au refuge, on n'avait pas de professionnels pour le comportement canin et on n'était pas si informés que ça au sujet des signaux apaisement, etc. Donc on faisait avec les moyens du bord. Toujours dans le respect du chien, mais en nous mettant plus en danger, nous. Donc au final, avec des professionnels, oui, qui agissent bénévolement chez nous. Hein, donc je peux en citer plusieurs. Donc il y a Laurent Alezan, qui est éducateur canin comportementaliste, qui est formé, qui a été formé au CFPPA de la ville de Gramat. On a Mélanie Cartier-Casanova, donc son entreprise, c'est Casa Canis, c'est pareil, formée à Gramat, avec une expérience de, pour l'instant, il me semble, 5 ans. Comportementaliste également, et on a Marine de Sinoflair aussi qui travaille elle beaucoup sur les activités olfactives mais qui est aussi basée sur le comportement et qui c'est en fait ces trois acteurs agissent bénévolement au sein du refuge ainsi que Stéphane Ruamps qui est aussi presque mondialement connu un jour.
L'homme qui parlait à l'oreille des chiens.
Voilà, l'homme qui parlait à l'oreille des chiens et qui a une relation au chien qui est quand même assez... assez agréable à voir et qui comprend quand même beaucoup de chiens.
Puisqu'on parle de comportement, si on croise un chien dans la rue qui est très beau, qu'on a envie de caresser, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'on tend la main ? Est-ce qu'on...
Alors, bah, du coup, je ne suis pas encore comportementaliste, mais en tout cas, moi, ce que je conseillerais en tant que soigneuse, c'est déjà d'interagir avec l'humain. De se mettre dans une position qui pourrait être un peu plus confortable pour le chien, donc jamais de face et jamais au-dessus du chien, ça c'est vraiment une position d'inconfort pour l'animal. Discuter tranquillement avec l'humain, essayer de voir si le chien se détend pendant cet échange. Si le chien est sur autre chose, on n'interagit pas avec lui. S'il ne vous voit pas, s'il n'a pas envie de venir vers vous, on lâche l'affaire, on continue sa balade. Avant tout, hein, on parle de respect de l'animal, donc voilà, on ne force rien. Et si le chien vient et qu'il est bien content, à voir, on le laisse venir nous renifler. Et par la suite, s'il cherche les caresses, là, on peut éventuellement, avec l'accord du propriétaire, bien évidemment. Ouais.
Donc nous allons voir un dernier point en votre compagnie, Claire, sur la rubrique santé. Mais avant ça, j'ai une interview à vous faire écouter. Je me suis penchée sur la question des tiques. Pour répondre à mes questions, j'ai rencontré un vétérinaire, Guillaume Bonnet. On l'écoute tout de suite.
Alors les principales saisons où on va retrouver les tiques, c'est l'été et à l'automne. Plutôt pendant les périodes chaudes, mais avec le réchauffement climatique, il faut se méfier parce que pendant les périodes de redoux, on peut retrouver des tiques, donc parfois au printemps et parfois en début d'hiver. Dans les lieux, ça va être plutôt la campagne, en bordure de forêt, mais...
Quels sont les dangers pour la santé de nos animaux de compagnie quand ils se retrouvent mordus ou piqués par une tique ? C'est quoi le terme adéquat d'ailleurs ?
Alors on parle plutôt de morsure. Bien heureusement, la plupart du temps, le risque est plutôt limité. mais certaines peuvent être porteuses de maladies et la transmettre au moment de la morsure, que ce soit des virus, des bactéries ou des protozoaires.
Les protozoaires, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les protozoaires, c'est des agents infectieux, en fait, peuvent entraîner des maladies chez nos animaux domestiques. La majorité ne sont pas transmissibles à l'homme, mais transmissibles notamment aux chiens.
Et donc, comment est-ce qu'on peut protéger efficacement son animal de compagnie face aux tiques ?
La première chose, si on voit un tique sur son animal, c'est de le retirer manuellement si il n'a pas encore mordu. Si la tique est accrochée, il existe de nombreuses des tire-tiques. Dans une deuxième étape, mais il faut utiliser des produits acaricides et non pas des répulsifs qui ont un effet qui est relativement limité et qui, la plupart du temps, si la tique est montée sur l'animal, n'empêche pas la morsure.
Claire, j'ai une question. Comment est-ce que concrètement le refuge protège ses chiens face à ce type de parasites ?
Alors, le refuge protège ses chiens par de la prévention. Donc, nous, on a un protocole assez particulier parce qu'on est sur une collectivité. Donc, on a un protocole qui est établi par un vétérinaire, donc qui est professionnel. Donc, nous, c'est vraiment tous les mois, en fait. C'est une fois par mois, on déparasite chaque chien, donc que ce soit par pipette ou par... par comprimé, hein, selon le chien, selon ce qu'il peut supporter aussi au niveau du contact. Après, on va essayer... Alors, on a beaucoup de bénévoles qui brossent les chiens aussi, et ça, c'est chouette, parce que pour certains chiens qui aiment le contact, au final, c'est un bon point. Déjà, ça enlève le poil mort, et ça peut enlever aussi certaines tiques qui ne se sont pas encore accrochées à la peau.
Merci Claire. Donc pour refaire un petit résumé, parce que c'était une émission lourde en informations, pour nos auditeurs, je rappelle que depuis le début de notre émission Pense Bête, nous avons parlé des évolutions de la protection animale, nous avons évoqué les problématiques liées à certaines races qui ne sont pas assez stimulées et qui deviennent donc un problème. Et nous venons d'écouter les conseils d'un vétérinaire pour protéger nos animaux des tiques.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
Nous recevons donc maintenant dans notre émission deux lycéennes. Si elles sont sur le plateau avec nous, ce n'est pas par hasard. Mais avant de développer, les filles, est-ce que vous pourriez juste vous présenter rapidement ?
Oui, bien sûr. Alors, je suis Noémie Guioni-Mazière, élève en terminale Agora, qui veut dire assistance à la gestion des organisations et de leur activité, au lycée Clément Marot.
Et je m'appelle Lucie Ferreira de Grémont et je suis également en terminale professionnelle Agora, donc au lycée Clément Marot à Cahors.
Et donc les filles, vous avez tenu à être avec nous aujourd'hui sur CFM. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui vous amène dans cette émission ?
Alors, depuis l'année dernière, nous travaillons sur notre projet de bac encadré par notre prof principal Elodie Rouziès. Et nous avons donc un projet à faire et nous avons... car nous sommes très touchés en fait par la cause animale et nous avons décidé de consacrer notre projet au refuge canin lotois pour les aider au maximum.
C'est super, hein ?
Ah ouais. Merci beaucoup.
Bravo, hein, les filles.
Merci.
Et donc, dans ce projet, vous avez mené des actions pour le refuge ?
Oui, on a réalisé des ventes au sein de notre lycée l'année dernière. Donc, nous avons récolté à peu près 650 € pour le refuge canin. Et cette année, nous continuons... en sollicitant des entreprises afin qu'ils aident le refuge canin.
Alors, par solliciter les entreprises, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous leur demandez ?
On leur demande s'ils peuvent nous faire des dons, en fait, de croquettes, de paniers pour les chiens, enfin, tout ce qui est nécessaire pour les chiens. Et donc, on se présente dans chaque magasin et on leur demande si c'est possible ou non. Donc, voilà, pour aider le refuge, bien sûr.
Et donc, est-ce que vous avez des retours positifs sur ces actions-là ?
Alors oui, Gamme Vert, je suis en contact avec eux, je leur ai envoyé un mail du coup descriptif, j'attends leur réponse, mais j'espère que ça va marcher.
Alors moi, je trouve ça quand même formidable, hein, deux lycéennes qui sont là avec nous, qui sont sensibilisées à la cause animale et qui sont des petites futures commerciales, tout compte fait, parce qu'elles vont démarcher les commerçants, puis elles ont des retours positifs, et puis souriantes comme elles sont, je pense que ça va matcher.
Et en dehors de ces sollicitations d'entreprise, est-ce que vous prévoyez de mobiliser à nouveau votre classe au profit du refuge pour d'autres actions ?
Oui, avec Madame Carole. Du coup, nous avons discuté. On va distribuer des flyers pour leur loto, pour pouvoir leur faire de la pub, pour que les gens soient au courant.
Et l'arbre de Noël.
Et l'arbre de Noël, bien sûr, bien évidemment, les deux. Les deux, voilà. Et puis, dès que Carole aura quelque chose à nous proposer, nous, on viendra les aider avec plaisir, parce que du coup, nous sommes cinq camarades au total à travailler sur ce projet. Et nous sommes à fond, quoi.
Super.
Génial, merci beaucoup les filles. Et donc on le disait plus tôt, foutu voix.
Tu chantes trop toi, hein ?
Dans la voiture,
ah, c'est pas possible ça.
À tue-tête. Et on le disait plus tôt, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Et après, chaque Noël, un problème récurrent arrive pour les refuges. Les animaux offerts en cadeau se retrouvent à l'abandon dans les mois qui suivent les fêtes de fin d'année. J'ai donc parcouru la presse pour trouver des chiffres sur le sujet. Et donc ce sont 20% des Français qui chaque année pensent à offrir un animal à leur entourage. C'est selon un sondage de 30 millions d'amis. Un peu moins passe réellement à l'acte, mais ça reste un chiffre assez élevé. Depuis quelques années, une loi a été mise en place. On en parlait pendant l'émission précédente en détail. Il s'agit du certificat d'engagement. Le but étant de lutter contre les achats coup de cœur qui arrivent justement sur les périodes des fêtes. Un autre sondage relève un petit peu la barre, j'ai envie de dire, réalisé par l'ICAD, donc l'organisme en charge du fichier d'identification des animaux de compagnie, chats et chiens plus précisément. Ce sondage, il a eu pour résultat que 95% des répondants voudraient le consentement du futur propriétaire dans le cas de ces adoptions cadeaux. Et pour trois quarts des répondants, offrir un animal, ça revient à l'assimiler à un jouet. Et donc, ils préfèrent ne pas le faire, à moins que ce soit la demande, de, évidemment, de la personne qui doit recevoir le chien. Alors, c'est des réponses qui, malgré tout, ne suffisent pas pour éviter les abandons. Et j'ai une question. Est-ce qu'au Refuge Canin Lotois, comme pour les autres associations, il y a un pic d'arrivée des chiens après les fêtes ?
Alors, ça, c'est un peu difficile à définir. Alors, en tout cas, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on a des demandes pour offrir des chiens. Donc, nous, on travaille, on fonctionne avec un questionnaire, justement, de renseignement. Donc, ça, ça nous permet au préalable de retenir toutes les informations nécessaires à l'adoption du chien. Et dans ce questionnaire, on demande qu'est-ce qui vous motive à adopter un chien ? Et oui, là, dernièrement, il y a justement, c'est très anecdotique, parce qu'il y a 15 jours de ça, on a eu en volonté offrir un chien à ma fille. Nous regardons donc l'âge des enfants, c'était 5 et 2 ans. Bon, là, nous reprenons contact avec la personne qui est intéressée. On essaye d'échanger un petit peu sur le pourquoi du comment le chien doit arriver chez eux. Et l'annonce est claire, c'est vraiment pour combler une attente de leur petite fille de 5 ans. Donc là, on part quand même sur des échanges où, très cordiaux, où on essaye d'expliquer que le chien, en tout cas nous, c'est pas dans notre volonté de placer un de nos chiens dans ce sens-là, sachant qu'on sait très bien quels sont les risques au préalable et aussi par la suite pour l'avenir du chien. Donc oui, malheureusement, on est encore dans ce système-là. On a des personnes qui pensent bien faire, qui cherchent à placer un chien chez le papa, par exemple, qui, lui, n'arrive pas à remplir le questionnaire, par exemple. Mais ça, c'est pareil. Nous, on veut que ce soit, et ça, c'est tout au long de l'année, on veut que ce soit le souhait premier de la personne. On ne veut pas que le chien arrive par surprise chez la personne.
Ah, non.
Il me semble que la démarche n'est pas correcte, et que ce soit pour le chien et pour... pour la personne en elle-même.
Et oui, c'est vrai que si un chien arrive par surprise chez quelqu'un, la personne n'est pas préparée et n'est pas au courant des attentes du chien et de ses besoins. Ça paraît tout à fait logique. Alors, deuxième nouvelle que je souhaitais aborder, et cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'application Lost Team ?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Non.
C'est... selon le site de l'application, une innovation. Donc, Lost Team, c'est une application de signalement pour les animaux perdus ou trouvés dans la rue. Ce qui la différencie des autres, c'est que cette application, elle utilise l'IA pour analyser les annonces et les photographies des animaux trouvés ou perdus et faire des matchs par rapport à l'apparence du chien, à la description, pour essayer de...
Ah, c'est génial.
Ah ouais.
De justement permettre aux gens de retrouver plus rapidement leur animal. Un autre point positif de l'application, c'est qu'elle fonctionne aussi avec une carte interactive sur laquelle les vétérinaires et les associations dans les 20 km alentour du signalement sont affichés. Comme ça, on peut trouver un vétérinaire proche pour faire identifier le chien si possible, ou une association pour qu'il ne soit pas à la rue une fois qu'il est trouvé. Donc c'est utile pour mettre à l'abri un animal trouvé. Ce qui se passe, c'est que les signalements, ils sont aussi affichés en temps réel. Et donc ça permet, si on vient de perdre son chien et que plusieurs signalements disent qu'il a été aperçu quelque part, finalement de le suivre à la trace et d'essayer de le retrouver facilement. Il y a d'autres fonctionnalités, une messagerie instantanée. Donc on peut échanger avec les personnes qui signalent un chien perdu ou trouvé pour avoir plus d'informations et s'assurer que c'est bien son chien, par exemple. Et il y a aussi une publication automatique des annonces sur les réseaux sociaux de l'application.
Wow.
Et une création automatique en PDF imprimable d'une affiche liée au signalement. Comme ça, on peut aussi directement après son signalement imprimer les affiches. On n'a pas à les faire, c'est l'application qui s'en occupe.
Génial.
Et encore mieux, on n'a pas besoin de créer un compte, donc on ne perd pas 10 minutes pour faire son signalement.
Ouais. On peut rappeler le nom de cette application ?
Alors l'application, elle s'appelle Lost Him.
D'accord. Donc en gros, on peut perdre son chien en toute tranquillité. L'IA va tout faire. Sans inquiétude, le chien va être retrouvé dans les 10 minutes.
C'est peut-être pas dans les 10 minutes, mais en tout cas, ça me paraît être une bonne nouvelle, une application comme ça.
Ouais, complètement.
Génial.
Voilà. Il est maintenant l'heure de notre dernière pause musicale. On se retrouve pour la suite et fin de notre rendez-vous animalier après ce morceau Stand By Me de Benny King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Bon retour sur CFM Radio Cahors, vous êtes bien dans l'émission Pense Bête avec le refuge canin Lotois. Avant notre pause, vous avez pu faire la rencontre des jeunes du lycée Clément Marot et découvrir leurs actions avec le refuge. Et nous avons abordé quelques petites statistiques. Il est maintenant l'heure de faire le rappel des événements à venir. Je me tourne à nouveau vers Roselyne pour cette fin.
Oui, donc on a eu, avant que je parle des événements passés, les deux derniers week-ends, on a fait des collectes qui ont été vraiment fructueuses. Merci à Carrefour, merci à Leclerc, merci à tous les gens qui ont donné. C'était vraiment super, ça fait chaud au cœur. Les marchés de Noël cette année, nous serons à Sauzet le 30 novembre et à Concorès les 6 et 7 décembre. Et bien sûr, notre plus gros événement de l'année, c'est le Grand Week-end du Refuge, notre deuxième édition après le grand succès du premier en 2024. Le marché de Noël sera le samedi 13 décembre, le loto le dimanche 14 décembre. Il y aura plein de choses, donc je vais juste en dire un tout petit peu. Nouveau cette année pour les chiens, le samedi 13 décembre, nous aurons Laurent Aslan, l'éducateur canin qu'on avait mentionné, qui fait un cani Christmas pour les chiens. Pour les petits et les grands, on a des choses à vendre, donc à acheter. La boutique de refuge sera là aussi, il y aura de nombreux artisans qui seront présents. Il y aura des animations pour les enfants, dont un magicien, des contes de Noël, un village de Noël, et bien sûr, le Père Noël sera là toute la journée. Et pour le loto, le lendemain, qui sera le dimanche 14 décembre, les portes ouvriront à 13h. Tout est au profit du refuge. Nous avons énormément de dons. Nous avons plus de 6 000 euros de lots à gagner. Des séjours, des week-ends, des activités de loisirs, des nombreux bons d'achat, des paniers garnis, restaurants, gastronomie, soins et beauté. Et il y aura aussi, bien sûr, un stand d'information pour accroître la sensibilisation à la cause animale et mieux faire connaître le travail du refuge et nos toutous à adopter.
Et il y a aussi les calendriers de l'année 2026 qui sont arrivés.
Ah oui, ça y est, ils sont tout frais. Nous les avons reçus hier. Donc, calendrier 2026 où chaque chien, tous les mois, a un message pour vous. Donc, voilà, c'est des messages d'amour en général. Et puis, ils sont disponibles donc au refuge. Alors, et vous pouvez également, via notre page Facebook, mettre un petit mot sous la publication du calendrier. Mais ce sera avec plaisir qu'on vous recevra pour pouvoir. Donc, ce sont des dons libres. Il n'y a aucun prix qui est imposé. À votre bon cœur, messieurs, dames.
Et donc, notre émission touche à sa fin. Un petit rappel des contacts juste avant de terminer.
Tout à fait. Vous pouvez prendre des renseignements sur le site www.refugecaninlotois.com, téléphone 05 65 22 66 32, l'email est refugecaninlotois46@gmail.com et sur notre site Facebook.
Donc, merci à tous d'avoir suivi notre émission. C'était Pense Bête avec les bénévoles du Refuge Canin Lotois et soigneurs et les lycéennes du lycée Clément Marot. Et on se retrouve le mois prochain, toujours sur les ondes de CFM Cahors. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site internet de la radio. Bonne journée à tous nos auditeurs.
Merci.
CFM Radio, votre radio dans le Lot.